Vent furtif, vent fou.
Le cosmos, pris sa forme.
Lentable, vivant, jus.
Bien, à toi.
Homme lié, pousse.
L'origine, fuse.
Le pur, ouvert.
En foudre.
Puis le cosmos
consista.
Jusqu'au.
Table.
Au viva.
Jusqu'à vous.
Bienvenue.
Lentum.
Outre de vie.
À l'origine, tu la vitesse.
Le pur mouvement furtif, le cosmos décéléra, pris consistance et forme, jusqu'aux lenteurs habitables, jusqu'au vivant, jusqu'à vous. Bienvenue à toi, lentum lié,
poussif tresseur de vitesse.
Et c'est déjà la fin de cette émission, merci de l'avoir suivi. La semaine dernière, vous aurez le loisir d'entendre une émission sur la guerre, le salon des déserteurs, pour dire que la guerre c'est pas bien, et faire un teaser pour la journée de la radio. Si ces lectures, la tête en bas, vous ont laissé perplexe, ou si vous avez la nausée après autant de retournements de situation, courez donc retrouver le bon ordre d'un livre, connu, inconnu, ancien, récent, intelligent, très très bête, peu importe, tant que vous écoutez sa voix, tant que vos yeux ont des oreilles. Copyright Elimac. Merci à notre invité Laurent pour sa participation. En guise d'Excipit, la Horde du Contrevent d'Alain Damasio, lue par Edny Lorac. L'Incipit, à la page 703, inaugure l'aventure de la 34e Horde du Contrevent. Dans un monde balayé par les vents, ils ont été formés depuis l'enfance dans un seul but, parcourir le monde de l'aval vers l'amont, à contre-courant face au vent, pour atteindre le mythique extrême amont. Et en guise de virgule, Charivari tiré du bossu de Notre-Dame par Disney. Une musique qui célèbre le carnaval où tous les rôles sont inversés. Parce que, comme vous l'aurez remarqué, je ne suis pas Caroline. Pour cette 10e émission, dont le thème est « à l'envers », nous avons pris les choses au sérieux et le fou est devenu le roi. C'est donc en toute fausse modestie que je prends la couronne et présente cette émission. Bon, alors au début, je voulais la présenter totalement à l'envers, parce que c'est moi qui ai proposé le thème, mais je me suis rendu compte que parler la tête en bas, c'est pas très très pratique. Donc je repasse la tête dans les nuages pour vous informer du programme. Pied au plafond et palindrome, miroir et temporalité inversée. Cette semaine, les yeux ont des oreilles, fait tout pour vous basculer, vous retourner, vous tourne-bouler, vous emberlificoter. Bref, vous aurez compris. Oragif, le papier-mâché en crâne, nous tient compagnie. Une fois n'est pas coutume, je vous pose la question à la fin de cette émission, et comme nous profitons des dernières bugnes de carnaval pour justifier ce renversement des pouvoirs, je vous demanderai quel était votre costume de Mardi Gras le plus réussi. Pour ma part, je pense que c'était le Chapelier Fou en version Tim Burton, c'était en 2010, qui en vérité reflète, je pense, ma nature profonde, et comme j'adore prendre le thé, je n'ai eu aucun mal à me glisser dans les ongles du personnage. Et vous, Caroline ?
Meilleur costume, donc 2010 également. À un couloir de l'endroit où tu étais habillée en chapelier fou, moi j'étais en reine des cœurs. Et c'était sympa. J'avais une robe médiévale prêtée par notre amie Marie, une couronne comme celle que tu portes à l'instant là. J'avais pris le manche à balai et j'avais collé dessus un espèce de un panneau qui disait Off with the head, couper la tête. Voilà. Et je me baladais et je menaçais les gens de leur couper la tête. Très très fun.
Ça reflète tes instincts sanguinaires ou pas ?
Oui, tout à fait.
D'accord. Camille ?
Bien, je ne vous connaissais pas à l'époque, mais j'ai aussi fait le combo L'Espée des Merveilles, et moi j'étais le lapin qui est toujours en retard, cherchez pourquoi. Et sinon, pour varier un peu, je crois que le pire que j'ai fait, pour le coup, c'était en ours, en plein été, et j'ai failli mourir de chaleur.
Laurent ?
Moi je crois que c'était quand même cette année, parce qu'en fait avant je crois que je m'étais jamais déguisé pour le carnaval.
Petite musique triste.
J'étais déguisé en koala, avec un magnifique costume que ma sœur m'avait rapporté d'Australie. Où t'as une capuche comme ça que tu rabats avec des petites oreilles et ça fait les yeux du koala et tout. Et j'avais décidé de surtout pas me raser avec à peu près la même pilosité qu'aujourd'hui. C'était le koala barbu.
Robin ?
Donc mes souvenirs de déguisement sont pas de Mardi Gras. J'ai un souvenir très très fort d'une soirée d'anniversaire où j'étais invité de dernière minute. C'était l'anniversaire d'un ami qui s'appelle Pierrick. Le thème c'était donc la lettre P. Et je suis arrivé pas déguisé et pas prévenu parce que voilà, c'était un peu à l'arrache. Et du coup, avant d'aller voir, avant de rentrer vraiment dans la maison et de voir mes potes, je me suis dit qu'est-ce que je peux faire rapidement. Je suis rentré aux toilettes et je me suis entouré de PQ et j'ai fait PQ-man. Parce que ça commence par la lettre P.
En avant-dernière lecture, c'est Elimac, alias Camille, qui vous présente une société bien retournée dont je lui laisserai dire le nom qui ressemble à ce qu'il paraît à un hennissement. En effet, nous allons à la rencontre de chevaux qui sont raisonnables, vivent dans une société simple et paisible, régie par la raison, la vérité et l'exactitude. Ils n'ont même pas un mot pour dire mensonge dans leur langue. Ils sont les maîtres des Yahoo, des créatures sauvages humanoïdes qui vivent dans leur pays. Tiré des voyages de Gulliver par Jonathan Swift, traduction de Légende de la Pléiade.
Voyage chez les Zouims. À peine eut fait mon entrée que la jument se leva de son tapis et, s'approchant de moi, examina soigneusement mes mains et mon visage. Après m'avoir jeté un regard des plus méprisants, elle se tourna vers le cheval. J'entendis leur conversation, où revenait continuellement le mot « Yahoo ». C'était bien ce mot, dont je ne savais pas encore le sens, bien qu'il eût été le premier que j'eusse appris à dire. Mais je ne tardais pas à être pleinement éclairé à mon éternelle confusion. Car le cheval, d'un signe de tête qu'il me fit, en répétant ce mot « une », qu'il avait prononcé sur la route et auquel je donnais le sens de « suivez-moi », me conduisit jusqu'à une sorte de cour extérieure où se trouvait une autre construction à quelque distance de la maison. Nous y entrâmes, et je vis trois êtres de ces abominables que j'avais rencontrés juste après avoir touché terre, en train de se repaître de raves crues et de morceaux de charogne. C'était de la viande d'âne et de chien, comme je le sus plus tard. Quelquefois aussi, on leur donnait une vache morte d'accident ou de maladie. Tous trois étaient attachés aux poutres par de gros liens d'osier passés à leur cou. Ils tenaient la viande crue entre les griffes de leurs pattes de devant et la déchiraient avec les dents. Le destrier ordonna au petit cheval de bas brun qui était son domestique de détacher le plus gros de ces animaux et de le mener dans la cour. On nous plaça l'un à côté de l'autre, puis maître et serviteur comparèrent point par point nos deux individus, le mot « Yahoo » revenant constamment sur leurs lèvres. Mon horreur et ma stupéfaction furent inexprimables quand je constatai que cet ignoble animal offrait une image entièrement humaine. Les pattes de devant du Yahoo ne différaient de mes mains que par la longueur de leurs ongles, l'extrême callosité de leurs pommes et l'épaisseur du poil qui en recouvrait le dessus. Il y avait autant de ressemblances entre nos pieds, mais cela, j'étais le seul à le savoir. Les deux chevaux ne s'en doutaient pas, à cause de mes bas et de mes souliers. Et on pouvait en dire autant de toutes les parties du corps, qui ne se distinguaient que par leur pilosité et leur couleur, ainsi que j'ai pu le dire plus haut. Vers midi, je vis approcher de la maison une sorte de véhicule sans roue, remorqué par quatre Yahoo. Il transportait un vieux destrier de noble allure, qui descendit en posant sur le sol, d'abord les pieds derrière, car il s'était blessé le pied antérieur gauche dans un accident. Il venait dîner chez notre cheval, qu'il reçut fort civilement.
Ma vie est synonyme de casse-tête. Black M n'a pas retourné sa veste, il a retourné sa casquette. J'irai jusqu'à devant le chef d'État, à lui dire en face que je pense en faire des détails. Casquette à l'envers. On dit que l'habit ne fait pas le moine, mais moi on m'a jugé parce que j'avais ma casquette à l'envers. Je vais pas faire de cinéma, c'est désormais je ne vais frapper que là où ça fait mal.
Merci Elimac pour cette lecture équine qui ne sale pas de manque. En virgule, section d'assaut met sa casquette à l'envers. Ne cherchez pas le lien, il n'y en a pas. Si ce n'est que, dans la thématique à l'envers, ce groupe a du coup remplacé Vivaldi au pinacle de la musique baroque. Comme quoi, tout retourner n'a pas que du bon. Et c'est au tour de Mélie ou de nous lire un extrait qui passe aussi bien à l'endroit qu'à l'envers, c'est-à-dire un palindrome. Alors, je vous rappelle que l'on échange les places aujourd'hui, donc Queneau est un inconnu notoire, et il sied donc de vous lire le plus connu des écrivains de palindrome, Stéphane Susanna, pour son palindrome lieu cerné, que vous pouvez retrouver sur formule@pluriel.net. Je vous en lis l'exact milieu au moment où ça bascule. Le verbe divisa, rêvait cet être bilatéral. Ce duo fédère si mal, car rauque, vin, retenu, trop mièvre, serti de verre mat, apparu dégarni. Agréé ce diadème minimal, unis-le ce récit, ça fera revue neuve. Rêver. Là, édite cet idéal, pacte né en gag et art à miroir, palindrome borné, lieu cerné, île, l'errant idem inutile se rime, servi, les connaît, mu de rage, me trace tel fier dialecte ou duo. Et ce laid reflet écarté m'égare du médian. Oh, ce livre se mire, ce lit uni, me dit. Narcelien, recueil enrobé mort. Nil ? A priori, ma strate gagne sens et cap. Là, édité cet idéal rêve. Revue neuve, rare. Factice réel. Si nul ami, ni même d'aide, créé. Gain ? Rage, dur appât amer. Rêve d'irréservé, importuné, terni. Aveu qu'arrache la misère de fou déclaré. Ta liberté te crèvera si vide. Brève.
Yaka, loup, yaka, loup, j'ai mis mon cas. Yaka, loup, mis mon cas. Yaka, loup.
Et parlant de palindrome, on n'a pas pu résister à l'envie de vous passer Kayak de Gérald Gentil, étant un des palindromes les plus cités de la langue française. Kayak, pas Gérard Gentil, faut suivre un peu. Dans le monde de la littérature, il n'y a pas que les romans qui marchent sur leur tête et qui prennent le thé au plafond. Et justement, notre prochaine lecture nous emmène dans ce lieu inexploré de la maison, le plafond. Alors non, il ne s'agit pas du passage de Mary Poppins d'Opéo Poppers. Soit dit en passant, sachez quand même que Supercalifragilisticexpialidocious dit à l'envers donne Dosiusalixpistifragilcalisuper, mais c'est tout de même allé un peu loin. Pour en revenir au sujet principal, c'est donc Annie Lorac, alias Caro, qui nous lit un poète qui ne sait peut-être pas d'Opéo Poppers, mais a expérimenté l'éther, la mescaline, le LSD et la psilocybine. Que des substances qui font décoller. Dans Plume, le héros éponyme se retrouve, dans le 12e et avant-dernier chapitre, au plafond. Alors non, Plume n'est pas le petit nom que Michaud donnait à son araignée.
Plume au plafond. Dans un stupide moment de distraction, Plume marcha les pieds au plafond au lieu de les garder à terre. Hélas, quand il s'en aperçut, il était trop tard. Déjà paralysé par le sang aussitôt amassé, entassé dans sa tête comme le fer dans un marteau, il ne savait plus quoi. Il était perdu. Avec épouvante, il voyait le lointain plancher, le fauteuil autrefois si accueillant, la pièce entière, étonnant abîme. Comme il aurait voulu être dans une cuve pleine d'eau, dans un piège à loup, dans un coffre, dans un chauve-bain en cuivre, plutôt que là, seul, sur ce plafond ridiculement désert et sans ressources, de redescendre eût été, autant dire, se tuer. Malheur ! Malheur toujours attaché au même, tandis que tant d'autres dans le monde entier continuent à marcher tranquillement à terre, qui sûrement ne valaient pas beaucoup plus cher que lui. Si encore il avait pu entrer dans le plafond, y terminer en paix, quoique rapidement, sa triste vie. Mais les plafonds sont durs et ne peuvent que vous renvoyer. C'est le mot. Pas de choix dans le malheur, on vous offre ce qui reste. Comme, désespérément, il s'obstinait, taupe de plafond, une délégation du Brain Club partit à sa recherche, le trouva en levant la tête. On le descendit alors, sans mot dire, par le moyen d'une échelle dressée. On était gênés. On s'excusait auprès de lui. On accusait à tout hasard un organisateur absent. On flattait l'orgueil de Plume, qui n'avait pas perdu courage, alors que tant d'autres, démoralisés, se fussent jetés dans le vide et se fussent cassés bras et jambes, et davantage, car les plafonds de ce pays sont hauts, datant presque tous de l'époque de la conquête espagnole. Plume, sans répondre, se brossait les manches avec embarras.
Et en virgule, c'était Lionel Richie qui dansait au plafond. Si vous n'avez pas vu le clip, il vaut le coup d'œil. So 80s. Retour vers le futur oblige, partons vers la science-fiction. Direction Hyperion. Non, pas le titan de la mythologie grecque. Non, pas le roman épistolaire de Friedrich Hölderlin. Non, pas l'épopée en vers de John Keats. Non, pas le poème roumain de Mihai Eminescu, ni le croiseur interstellaire de Starcraft, ni le séquoia à feuilles d'if. Non, direction l'Hyperion de l'unique, du grand Dan Simmons, publié en France en 1991 et écrit en 1989. Résumer un livre de Dan Simmons, c'est un peu essayer de faire rentrer l'Himalaya dans l'ENS. Il y a un petit problème d'échelle, mais comme on l'a dit, c'est pas la taille qui compte. Hyperion est loin d'être un énorme navet sectaire. C'est l'histoire de sept pèlerins désignés par l'hégémonie, confédération des planètes dominées par l'homme, pour aller trouver dans les tombeaux du temps le Gritch, sorte de colosse de métal qui passe pour avoir été un dieu. Vous n'avez rien compris ? Sachez seulement que Dan Simmons a reçu le prix Hugo pour ce bouquin. Et c'est Camille qui nous fait la lecture, traduction de Guy Abadia. Le passage que nous allons écouter est un dialogue entre Sol, le père de Rachel, et un médecin.
Comment est-ce possible ? Hurla-t-il à la figure de l'un de ses spécialistes, qui avait commis l'erreur de se montrer à la fois suffisant et condescendant avec le père de la jeune malade, et qui avait un crâne si dégarni que les traits de son visage semblaient dessinés sur une boule de bière. « Elle commence à rapetisser !» s'exclama-t-il, en saisissant littéralement par le col de sa blouse le pauvre homme qui reculait. Cela ne se voit pas immédiatement, mais sa masse osseuse est en train de diminuer. Comment peut-on seulement concevoir qu'elle puisse redevenir enfant ? Qu'en est-il de cette foutue loi de la conservation de la masse ? Le spécialiste avait remué les lèvres, mais il était trop terrifié pour qu'il en sorte un son. L'un de ses collègues, barbu, avait expliqué à sa place. « Voyez-vous, vous devez comprendre que votre fille habite actuellement... Essayez d'imaginer un espace local où l'entropie serait inversée. » Sol fit volte-face pour affronter le barbu. « Essayez-vous de m'expliquer qu'elle est simplement prisonnière d'une bulle de régression ?»« Pas tout à fait, » déclara l'homme en se massant le menton. « Pour choisir une analogie peut-être plus appropriée,
biologiquement tout au moins. Disons que chez elle, le mécanisme de vie et le métabolisme... Enfin, tout semble avoir été inversé et ridicule, coupa Sol. Si c'était le cas, ses fonctions de nutrition seraient remplacées par des fonctions d'excrétion. Elle régurgiterait sa nourriture, etc. Et que faites-vous de la sphère neurologique ? Inversez les influx électrochimiques et vous n'obtiendrez que de l'incohérence. Son cerveau fonctionne parfaitement, messieurs. C'est sa mémoire qui disparaît. Pourquoi ? Êtes-vous capable de me l'expliquer ? Le premier spécialiste avait fini par retrouver sa voix. « Nous ignorons la réponse à cette question, monsieur Weintraub, dit-il. Mathématiquement, l'organisme de votre fille ressemble à une équation à effet de temps inversé, ou peut-être à un objet qui serait passé au travers d'un trou noir en rotation rapide. Nous ne savons pas comment une telle chose a pu se produire, ni pourquoi ce qui est physiquement impossible est arrivé, en l'occurrence. »